Et voilà. On répare les petits caca des salariés de la radio et on se met en retard. Mais pas de panique. Vous écoutez FMR, vous sur la radio, du moins. Nous sommes le samedi 27 mars 2010. Nos programmes pour cet après-midi. Et ben sachez qu'à partir de 13h30 du sport présentera les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie et des matchs à nuit clos. À 15h, ce sera du reggae et à 17h, Radio FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz, mais continue en sur 24h/24 sur le stream en Ogvorbis sur son site web. Mais dans les médias, voici la tempête tant annoncée pour ce week-end.
Précédemment dans le supplément week-end.
Finalement, le fait qu'ils aient vraiment des vrais pouvoirs ou pas, tu t'en fous en fait.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum. Das Creek. Et la participation exceptionnelle de JB.
Oui, bon, Thomas sera là, il sera tout à l'heure à l'antenne, mais je crois qu'il a un peu de retard. Du sport aussi, il faut dire que ça souffle pas mal dehors, mais pas de panique, le supplément week-end commence bien, même avec 1 minute 30 de retard, il n'y a pas de peur que l'on ne soit pas là. Pas de soucis, nous sommes là. On va commencer par l'agenda peut-être de ce qui se passe à Toulouse, puisqu'on aura un week-end qui sera très 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 lourd, mais ce sera dans 15 jours. Il y aura principalement trois choses à la fois, trois gros événements, trois événements, un très gros, deux un peu moins gros, qui auront lieu le même week-end. Si vous êtes bédéphile, accrochez-vous, ça vaudra le coup. D'abord, il y aura le TGS Wanami. Alors, le TGS Wanami, c'est une déclinaison qui se veut un petit peu plus intimiste, surtout principalement du salon Toulouse Game Show. Le Wanami, c'est une fête au Japon, puisque c'est en fait c'est à la fois le sacre du printemps et le nouvel an, puisque vous savez, donc la rentrée a lieu au Japon début avril. C'est la saison des fleurs, et d'ailleurs c'est à ce moment-là qu'il y a la météo des fleurs à la télévision, et c'est à ce moment-là qu'il y a les nouvelles séries télé, les nouveaux mangas qui arrivent dans les principales revues de prépublication, et à partir de là, tout simplement, depuis environ 12 ans, sur Radio FMR, on parle en général justement des nouveautés du Japon à ce moment-là à la radio. Et le Toulouse Game Show a dit on va faire la même chose, mais cette fois-ci en grand, en large et en beaucoup plus grand. Comme d'habitude, ce sera à la salle Diagora à la Beige, où ils vont faire un salon, mais ce sera pas aussi gigantesque que le Toulouse Game Show qui a lieu fin novembre. Ce sera quelque chose qui sera plus focalisé sur le Japon, traditionnel et high-tech, avec un pôle culturel. C'est en partenariat avec le Centre culturel franco-japonais de Toulouse, mais aussi il y aura des éditeurs, des concours, cosplay, donc il y aura du manga, des jeux vidéo et bandes d'arcade, des jeux musicaux, même une démonstration de jeux vidéo en 3D, d'ailleurs en 3D avec les lunettes, comme ça on ressemble tous à des mouches. Alors le programme du TGS Wanami, a priori d'ailleurs, le supplément week-end est cordialement invité par les organisateurs du salon. Nous serons en direct sur place, en direct et en public samedi à midi. Vous pouvez même venir pour essayer de nous toucher. Je dis pas si on ne mord pas. Ça reste à voir. Il y aura des démonstrations de Kyudo. On aura un prof en interview en direct de l'association Aime ton arc. Il y aura des démonstrations d'arts martiaux avec l'équipe de Camille Benichou. Je suis sûr que du sport saura immédiatement de qui il s'agit. Avec du karaté do, du tai chi chuan, du tai chi chan, du kinshin taijutsu. Et j'espère que je ne me suis pas trop planté dans la prononciation. Il y aura des ateliers et des cours de cuisine japonaise, d'origami, de calligraphie traditionnelle. Il y aura deux concours de cosplay, un concours cosplay individuel, ça c'est le samedi, et un concours cosplay en groupe, ça ce sera le dimanche, avec des démonstrations, des gens qui feront des scènes sur scène justement devant un public. Donc ce sera vraiment fun à mon avis. Il y aura à la fois de la performance sur la recréation de costumes, sur le maquillage, mais aussi sur l'interprétation scénique. Il y aura des animations karaoké, il y aura le club DDR Bordeaux qui sera présent avec Dance Révolution et Pop and Music. Et en concert samedi soir, deux groupes à retenir, Lamia Cross et Red Rails, deux groupes de J-pop qui sont, enfin de musique japonaise, hein, Lamia Cross, J-pop, je veux bien, mais Red Rails, pas vraiment. Donc tout cela qui sera au TGS Wanami, ce sera les 10 et 11 avril de 10h à 19h, même un peu après hein, à mon avis pour le concert. Ce sera à la Beige, à l'espace Diagora. Oui, venez aussi puisque on y sera présent. Et ce sera intéressant aussi de discuter avec vous. Mais on va essayer justement de parler, mais pas cette fois-ci exclusivement de manga, puisque justement ce que je disais, c'est qu'on aura un prof qui parlera d'arts martiaux. On aura peut-être des créateurs de vêtements qui seront présents sur le plateau et plein d'autres choses. Enfin, on fera ça à la bonne franquette, vous connaissez comme d'hab. À côté de cela, le même week-end aura lieu le festival Bulle d'Ombre, c'est à la salle de Limera qu'on les avait reçus. Là, ils en sont à la 5e édition de leur festival. Ce sera 10 et 11 avril de 10h à 19h en collaboration avec la librairie Album. La salle de Nimérac, elle est rue Xavier Darras, c'est-à-dire que c'est pas très loin en fait de la Cité de l'Espace, c'est sur les coteaux, hein. C'est entre l'avenue Jean Rieu et l'avenue de Castres. Avec en dédicace, il y aura Rémi Guérin, Guillaume qui fait la série Explorer chez Soleil et qui signe cette année l'affiche de ce petit festival. Les véritables légendes urbaines chez Dargo, Guillaume Lapère qui fait entre autres Ether Explorer et les faits de Brocéliande. Lucien Rollin qui avait dessiné Ombre, le Décalogue, qui dessine actuellement Voyageur chez Glénat. Alexine et You qui fait Sorcière et Bianca chez Dupuis. Olivier d'Angers qui fait Ciel en ruine chez Paquet. On en avait parlé sur cette antenne. Les 4 quarts de Wes Angel, c'est une série qui est dessinée par Wes Angel, donc ils seront présents. Qui fait aussi L'héritier des étoiles chez Mandouest et Zelfé. Marc Guessant pour. On a parlé de Jour de grâce chez Dupuis. Humbert Zen chez Soleil et Petit Dôme chez Soleil. Mais alors là, ça remonte. Sébastien Ferrand qui dessine l'anneau des Nibelungen et Ulysse, Horn qui dessine le maître du jeu, la métamorphose de France Kafka, et on a parlé la semaine dernière du seigneur de Tifoge, BM qui lui dessine les aventures de Mekali, Otto Harik et Gaspard de Besse, et c'est plus pour les enfants, c'est plus de l'animalier, et Boris Guillanteau qui adapte La Fontaine aux fables, enfin les fables de La Fontaine, voilà, Jeanne et les dragons et le petit bûcheron et plein d'autres auteurs qu'on nous promet. Plus d'informations à la fois sur TGS ou Anami sur le site tgs-oanami.fr, et pour ce qui est de Bulle d'Ombre, c'est bulle.dombre.chez-alice.fr, mais vous allez sur supplémentweekend.fr, vous allez dans nos chroniques immédiatement dès maintenant et vous avez les liens justement vers ces deux événements. Et pour être complet justement sur ce week-end qui promet d'être saturé au complet, sachez qu'il y aura à Ramonville-Saint-Agne, ça a lieu tous les 6 mois, c'est la foire, la bande dessinée d'occasion, c'est, si je me trompe, à la salle des fêtes polyvalente, c'est juste à côté du Bikini. Pour ceux qui connaissent, voilà. Et c'est l'occasion de rencontrer à la fois des collectionneurs, mais surtout des libraires d'occasion. Alors, du sport vient d'arriver, et je viens de voir un prog musical, il y a un CD qui est en haut. Vous allez encore apprécier, je sens. Et pour être complet, le 7, 8 et 9 mai, il y aura un salon de la bande dessinée à Toulouse, mais on n'a pas d'éléments, on ne sait même pas comment il s'appelle, mais en tout cas, là aussi, on sera en direct en extérieur. We'll be right back. Une transition loupée. En fait, je voulais faire un effet de cross entre les deux très rapide. Je me suis planté, voilà, ça aurait fait une transition amusante, mais c'est loupé, c'est dommage, mais tant pis, on commence avec les sorties bande dessinée. On va commencer par Zach et Willy, les rois de la loose. Le premier tome donc est sorti chez 12 bis édition. C'était déjà paru auparavant d'ailleurs, il me semble, en prépublication, et si je me trompe, je crois que Non, c'était pas dans Spirou. Je ne sais plus où exactement. Le scénario est signé Thierry Robrecht et c'est dessiné par Marco Polo. Et il faut présenter les deux personnages principaux, Zach et Willy, qui illustrent cet album de gag en une planche. Et ben, Zach et Willy, on va dire qu'ils sont cool. Le matin, ils se lèvent quand ils y pensent. Ils se rendorment en classe et à peine revenus chez eux, ils rallument la télé. Oh, ils dorment sur le canapé habillés, comme ça, pas besoin d'aller au lit et pas besoin de se rhabiller le lendemain. Ils ont comme projet principal de sortir avec une fille. Enfin, non, vous n'avez pas compris. Chacun avec une fille. Et pour cela, ils ont l'arme imparable. Ils vont monter un groupe de rock ou de rap, ils savent pas encore. Zach et Winnie ont d'ailleurs déjà commencé l'indispensable, l'entraînement à l'interview. Apprendre à jouer d'un instrument, écrire une chanson. Oh, oula, rien de presse, attends. Ouais. On fera difficilement plus mal barré pour la vie que Zach et Willy. Squattant chez leurs parents, chacun sans aucune chance de voir la lumière du dehors, avec le regard parfaitement bovin et autant de tonus dans la mâchoire inférieure qu'un escargot. Ce sont deux garçons dans les vents. Les vents qu'ils lâchent toute la journée par tous les orifices possibles. Les vents qu'ils se prennent par toutes les créatures du sexe féminin qu'ils ont cru vouloir pouvoir baiser. Conscience politique, zéro. Désir d'avenir, n'en parlons pas. Espoir de demain, c'est moins rien. Ce sont deux losers pathétiques. Après se faire jeter de leurs parents, ils iront dans un squat et pour prouver qu'ils sont rebelles, feront la manche. Parce que, travailler, c'est pas trop cool, quoi, man. Oh. Zach et Willy est une BD bien marrante qui n'a qu'un seul inconvénient et pas des moindres. Me faire écrire comme Eric Zemmour. Eh ben, fait un peu peur. Thierry Robrecht au scénario, Marco Polo au dessin, Zach et Willy, le premier tome s'appelle Les Rois de la Loose et c'est chez 12 bis édition. On arrête de bavasser sur les autres. Non, mais j'ai tout renommé. Tout. On continue les sorties bande dessinée avec Davy Maurier. On en avait parlé. C'est à la fois un auteur, un acteur, un réalisateur, un chroniqueur BD. On l'a interviewé il y a 15 jours. Et là, c'est en tant qu'auteur de bande dessinée dont on va parler pour son triptyque bipolaire dont le premier tome vient de sortir. Il s'appelle Morph, journal intime d'un geek dépressif. Ça sort aux éditions Adali. Et lors de notre interview justement qu'on a passé il y a 15 jours de Davy Maurier, je parle pas de celle qu'on avait fait pour Nerds il y a un an et demi, ça portait principalement sur son activité de chroniqueur BD à la télé et aussi sur le paradoxe comme quoi il était auteur de BD en même temps. Mais Thomas avait fait une remarque qui allait faire mouche et qui allait amener certaines choses justement à propos de cette BD.
Ton style de BD est vachement radical. C'est-à-dire...
Tu ne sais pas dessiner, quoi.
Non, ça, c'est toi qui l'as dit. Justement, comment tes BD ont-elles été reçues par les gens qui ne te connaissaient pas de No Life?
Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que beaucoup d'acheteurs de mes BD sont des gens qui n'achètent pas de BD d'habitude. C'est, ce qui est amusant, c'est qu'en séance de dédicace, première séance de dédicace de Nerds, il y a quelques années, des mecs qui viennent et qui me font « C'est le premier DVD que j'achète. » Tu fais « Ah, merci !» Tu vois, voilà. Alors, ou ils téléchargeaient tous les autres trucs, ou alors ils aiment que Nerds, tu vois. Et là, j'ai des mecs en séance de dédicace BD qui viennent et qui font « C'est la première BD que j'achète. » Alors, je ne sais pas. J'intéresse un public, c'est des gens qui regardent No Life ou qui regardent mon blog et qui aiment, je pense, le personnage. Enfin, voilà. Et qui ont envie de picorer tout. Je vis dans une niche fermée, en fait. Mon univers est assez clos. Et peut-être que les gens aiment ça aussi.
Alors évidemment, je vous ramène sur l'interview en entier de l'émission d'il y a 15 jours pour en savoir un peu plus, puisque là, on n'a pris que des extraits, on n'avait pas rediffusé en entier, mais bien après, justement, il se demande si les gens qui achètent son album ne le faisaient pas plutôt à cause de sa personnalité. Eh ben, c'est bien possible. Graphiquement, comme dit Thomas, c'est assez radical, il est plutôt simple, et comme dit Davy, en toute franchise, je sais pas dessiner. Point de vue histoire, c'est une autobiographie assez sombre et dépressive. Mais c'est normal. L'auteur vous l'a dit quand même dès le titre, et ceux qui ne connaissent ni son blog, ni ses émissions télé, ni la série Nerds, ni ses courts-métrages, vont avoir vraiment du mal à rentrer dedans. Hein. Pourtant, cela en vaut vraiment la peine. Tout commence par la fin d'une histoire d'amour, la rupture, la dépression qui va avec, et les occasions manquées d'en sortir. Parce que la dépression, c'est un enfermement. Et au bout d'un moment, c'est plus confortable de rester replié sur soi-même, sur cet état d'adolescence, que d'avancer, de retrouver la vie et le bonheur. Le triptyque bipolaire est en fait partie d'une collection de strips principalement publiés sur son blog, 41€, qui raconte ses séances chez le psy. Plus exactement, les séances de Bat Davy, car comme il le disait dans la même interview, il ne dessine que quand il va mal, et ce qu'il dessine est la partie la plus noire de sa personnalité. C'est pas complètement sa personnalité, ce n'est pas réellement sa personnalité, mais c'est la partie vraiment la plus sombre. Mais si le strip avait l'avantage de l'impromptu, de l'exutoire instantané, il a l'inconvénient des quatre cases, ne pas approfondir l'histoire. D'où l'album qui permet d'aller plus loin. Il ose une révélation, une peur panique de la mort germée par un cardiologue. Je vous laisse découvrir ce moment. Mais juste pour donner un coup de chapeau à Davy, qui a mis in extenso son courrier de médecin à son propos, ça en laisse encore plus froid dans le dos. Alors oui, on le voit déconner à la télé, la raison est évidente. Psychoter ne sert à rien. Plutôt que de se morfondre du passage à l'état adulte, il vaut mieux se forger des moments inoubliables que de voir toute sa vie en gris. Davy Maurier, triptyque bipolaire. Le premier tome s'appelle Moirf, journal intime d'un geek dépressif. C'est sorti aux éditions Adali. Et Davy Maurier sera en dédicace au TGS ou à un ami. Ce sera donc le 10 avril. 10 et 11 avril, pardon, excusez-moi. Et à noter qu'en ce moment, là, il est en train de diffuser son émission sur la chaîne Gong, What Strip, l'émission sur la bande dessinée. Tout à fait autre chose avec Natsume Ono, Ristorante Paradiso. C'est sorti chez Big Kana, qui est la collection adulte de Kana. Il faudrait parler du Ristorante Casetta dell'Oro, je ne sais pas si je le prononce bien, comme d'hab. C'est tout l'inverse des établissements que l'on peut voir dans Cauchemar en cuisine. L'établissement est impeccable. L'adresse dans le centre-ville de Rome, très fréquentée. Le personnel, agréable et prévenant. La cuisine est délicieuse, les vins de très bonne qualité et la salle bondée. Si Gordon Ramsay y vient un jour, il y aura fort peu de choses à faire. Et pourtant, ce restaurant a ses particularismes étonnants. Tous les serveurs sont plutôt mûrs, portent des lunettes de presbyte, et la très grande majorité des clientes sont des femmes. Nicoletta est arrivée en ville avec cette adresse en ligne de mire. Jeune fille volontaire, éduquée par sa grand-mère, elle veut faire avouer à la femme du patron qu'elle est sa mère, et que jamais elle ne s'est préoccupée d'elle. Mais tout ne va pas se dérouler exactement comme prévu pour Nicoletta. Ristorante Paradiso n'est pas un manga de cuisine, mais un nœud d'histoire, de passion, d'amour plus ou moins avoué, et le désir de vivre tranquillement dans le bonheur, de passion de la bonne chair, mais étonnamment peu de passion charnelle. Mais dans le flirt et le plaisir de rencontrer. À noter que cette histoire a été récemment adaptée en série Japanimation. Ristorante Paradiso de Natsume Ohno est édité dans la collection Bikana Shekana et la suite Rente, dont le premier tome justement est sorti, lui aussi, du succès de l'histoire complète de Ristorante Paradiso, du moins de l'album, c'est ça qu'il faut signaler, qui est en fait la première œuvre de Natsume Ohno, est consciente qu'elle avait à la fois des personnages bien construits, une idée de base en béton et un public conquis. La dessinatrice décida de reprendre l'histoire du restaurant Casetta dell'Oro, mais en partant de sa création. Pourquoi Lorenzo a monté cette affaire ? Pourquoi il tient tant à faire plaisir à sa femme ? Comment a été recrutée l'équipe et par quel hasard portent-ils presque tous des lunettes ? Alors là encore, qui va piano va sano. Aucun élément choc, on est dans une vie quotidienne pure et dure. Chacun a ses secrets, ses déceptions amoureuses et l'envie de trouver l'âme sœur. Une nouvelle manga dans la capitale de la Dolce Vita. On y parle de cuisine, mais sans donner de recettes. Il est juste question de plaisir, de déguster de bons vins et des plats qui se marient très bien avec. On prend le temps d'apprécier chaque personnage, de comprendre les motivations de chacun. Pourquoi certains quittent l'aventure du Casetta dell'Oro et pourquoi d'autres y viennent. Avec cette contrainte amusante, les serveurs devront porter des petites lunettes sévères de presbyte, leur donnant à la fois charme et style. Rente, le premier tome, donc, et Ristorante Paradiso, c'est de Natsume Ohno, et c'est sorti chez Bikana, la collection adulte de l'éditeur Kana. Je l'attends, je ne sais pas ce qu'il fait. Du sport. Du sport, je crois qu'on va avoir un souci, puisque en fait.
Oui, oui.
Ah, bah, je crois qu'on l'a en ligne. Ah,
oui.
Allô,
oui, bonjour.
Ah, bah, super, t'es là. Bon, bah, je vais pouvoir lancer le jingle alors. Attention, 3, 4. Les scénarios vous sont téléphonés par Thomas sur grand écran. Comment vas-tu ?
Eh bien, ça va, en visioconférence. Bonjour, messieurs.
Bah, bonjour. Salut. Salut, oui, mais tu m'avais dit que tu arrivais, que tu allais avoir un peu de retard, là. Qu'est-ce qui se passe ?
Bah, écoute, il m'est arrivé quelques tuiles aujourd'hui, là, parce que, bon, déjà, il y a une météorite qui est tombée sur ma voiture. Donc bon, je sais que les autorités avaient demandé à un fourreur et son équipe de, d'essayer de neutraliser, mais il était complètement bourré, et puis je sais pas, il était sur une plateforme, alors bon, il a pas pu se libérer. Après, à cause du vent ce matin, c'était des chiens malesques, hein, puisque c'était la nature qui n'est pas contente, alors moi j'ai pas pu arriver. Et puis,
ouais,
en plus,
ça, je me suis pris le vent, ouais.
Voilà, et puis si t'ajoutes à cela la panne de réveil, parce que bon, il y a eu un passage d'heure d'hiver à l'heure d'été, donc j'ai rien compris.
Non, c'est cette nuit.
Ah merde, c'est cette nuit.
Oui, c'est cette nuit, on perd une heure cette nuit.
Ah mince. Ok, bon ben désolé, je suis pas parmi vous.
Oh non, mais c'est pas vrai. Non mais, dis-moi, t'as fait ça parce qu'en fait t'avais pas de chronique.
Bah non, en fait, parce que j'ai vu des films, il y a plein de films à parler, c'est vraiment dommage. Parce que par exemple, là, on a Alice au Pays des Merveilles que j'ai vu cette semaine. Donc là, c'est le grand retour de Tim Burton qui s'approprie l'univers de Lewis Carroll. Alors ça donne un truc visuellement sensationnel. C'est pas mal, c'est dommage, ouais. Bon après, par téléphone, c'est pas tip-top. On a Nine aussi, de Rob Marshall, avec Penelope Cruz, Marion Cotillard, Daniel Day-Lewis, ça c'est du lourd aussi. Bon voilà, c'est pour les fans de danse, de musique et tout. Bon voilà, je vais pas, ça non plus, je vais pas en parler. Le dernier Boukrieff, donc moi j'étais super fan du Convoyeur de Nicolas Boukrieff, là il revient avec Gardien de l'Ordre, avec Fred Testo, Domar et Fred, et Cécile de France.
D'accord. Non, mais j'ai compris. Bon, écoute, Thomas, là, de toute façon, c'est loupé, c'est foiré. Moi, voilà ce que je te propose. Mardi prochain, on passe au studio à midi, et dans le créneau horaire des impromptus, et comme le mardi, c'est cinéma, on pique la place à Sinécure, on fout dehors Bruce et toute sa clique de bras cassés.
Ah oui, après, ils sont mauvais, alors...
Voilà. Comme ça, t'as une heure complète pour parler de cinéma. On fait comme ça ?
Cool, parce qu'en plus... Et en joker, on aura aussi le guerrier silencieux, c'est l'histoire d'un guerrier viking born.
Ouais.
Qui doit partir
Matt
en terre sainte.
Mikkelsen.
Matt Mikkelsen, par l'auteur de la trilogie Pusher et Bronson.
Ouais.
Et alors, j'ai vu une critique de un petit laïus de Monsieur Poulpe là sur le net. Il dit que le premier dialogue intervient au bout d'un quart d'heure. Ça a l'air au bout d'une heure quarante. Ça a l'air génial.
Ouais, on n'arrête pas de parler de nerds, hein, avec après la chronique de Davy Morier. Bon, ça tombe bien parce que moi, point de vue BD au cinéma, moi, j'aurais vu ce week-end en Divix, en screener, le Adèle Blanc-Sec.
Ah,
bon courage.
Pourquoi ? Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a ?
Et Edu, c'est ce qu'il a vu, le guerrier Born, ou non, pas encore ?
Non.
Bon, bah, et voilà, ça y est, on a le programme pour mardi. Zou. Bon, bah, écoute, à toutes, hein.
Eh ben, à mardi pour nos chers auditeurs, et puis amusez-vous bien, hein.
Ouais. Mais quelle bande de...
Je vais lancer mon bas de grappin pour essayer de pas être en... pour pas m'envoler.
Bon, bah, d'accord, bah, écoutez, 12h29 minutes et 27 secondes, et ben, du coup, on va passer la pub. Allez, ciao, bye bye, Thomas.
Salut.
El Hijo de la Cumbia sera en concert à Toulouse le samedi 27 mars au Cri de la Mouette. Venu d'Argentine, nous déverser sa nueva cumbia teintée de hip-hop, dub et reggae, El Hijo de la Cumbia partagera l'affiche avec Calacuta Selectors pour vous faire danser jusqu'au bout de la nuit. El Hijo de la Cumbia et Calacuta Selectors, c'est le samedi 27 mars à partir de 22h au Cri de la Mouette, et c'est en partenariat avec Radio FMR.
Le Toulouse Game Show présente TGS Ohanami, le salon de la culture japonaise. Viens partager ta passion pour les arts martiaux, le manga, la J-pop, la mode, le cosplay, les jeux vidéo, la Japanime. Avec des démonstrations, des ateliers, des concours et l'ami à croissant concert. Car tu n'es pas seul à être fan de culture japonaise. TGS Ohanami, samedi 10 et dimanche 11 avril à Diagora la Beige. Et samedi 10 à midi, le supplément week-end y sera en direct. Plus d'infos, tgs-ohanami.fr.
Ah oui, Brothers, en concert, le samedi 27 mars, au Rex à Toulouse. Les numéros 1 des charts danois s'approprient avec insolence, ska et power pop. Ils s'approprieront aussi la scène du Rex pour un concert effréné, partageant l'affiche avec Nasser, groupe électro-rock. Harwi Brothers en concert au Rex, c'est le samedi 27 mars, en partenariat avec Radio FMR.
Yeah. Time to set it straight.
Radio FMR vous fait découvrir la programmation du festival Garo Rock en musique tous les jours de 8h à 9h du matin. Découvrez le meilleur du festival Garo Rock, une sélection de plus de 60 groupes du lundi au dimanche, 8h, 9h du matin sur Radio FMR.
Et voilà, 4 secondes de blanc, encore une fois. Vous écoutez le supplément week-end sur Radio FMR 89.1 MHz. C'est de suite, et ben, petit break musical avec Rubinstein, Another Record Story, extrait de l'album Where It's Two Covers and a Love Song. Another record story and a record story. Rubinstein, comment ça se fait que j'arrive plus à le prononcer? Avant, je le passais en quotidienne, j'avais pas de problème. Et maintenant, j'en suis strictement incapable. Another Record Story. Du, heureusement, lui, il est là.
Oui.
Oui, oui.
Tout à fait. Ouais.
Non, Madame Lamaki, là on est en direct. Merci. Voilà. Il va faire la partie série télé et cinéma, mais je crois qu'on va malheureusement commencer par un autre de ses chers disparus.
Ouais, on va pouvoir faire un jingle carrément, quoi, parce que
ah bon, là
comme dirait l'autre, comme dirait l'autre, ça tombe comme à gravelotte, hein. C'est la période. Alors, il s'agit de Robert Culp. Hein, qui est décédé donc cette semaine. Bon, il n'était pas tout jeune, mais il n'était pas tout vieux non plus. Hein. Il avait pratiquement 70 balais, quoi. Disons bon, ça va encore. Robert Culp, donc qui commence sa carrière dans les années 50, au début des années 50. Alors, il est né à Oakland en Californie. Il est mort d'ailleurs à Oakland en Californie et il monte à New York pour assouvir sa passion du théâtre, sa passion d'acteur. Et durant les années 50, durant le début, la première partie des années 50, il va jouer quand même dans pratiquement 80 pièces.
Hein,
obtenir un Obie Award qui est l'équivalent quoi de ce qu'on appelait après le Tony Award.
Voilà, c'est tout ce qui concerne les productions de Broadway, si
voilà.
Je me trompe.
Ouais. Alors off-Broadway, hein. Obi c'est off-Broadway, alors que Tony Award c'est justement les trucs officiels. Hein. Ça n'empêche que ça lui sert quand même. Il se retrouve à la télé bien sûr dans les années 50 avec une série qui est inédite en France. Hein. C'est une série western qui s'appelle Track Down et qui raconte 40 ans avant un certain Chuck Norris les aventures du Texas Ranger. Hobie Gilman
On est en 1950.
Non, de 57 à 59. Il y a eu deux saisons, 70 épisodes au total de cette série qui s'appelle Track Down.
Hein. C'est plus 35 ans là.
Ouais.
Hein?
Mégote pas.
Ah, si.
Hein? Alors, c'est le boulot du Texas Rangers, c'est-à-dire rechercher les pilleurs de banque, les voleurs, les assassins et tout ça.
Et ramener les vaches dans les troupeaux d'où ils sont.
Mais Robert Culp est quand même hyper connu pour sa série Les Espions, I Spy. Et d'ailleurs, tu prends le disque juste en dessous de l'autre, là. Voilà, et tu me cherches le truc, ça doit être le 12 ou le 13, je sais pas quoi. Et on va te caler ça vite fait. Ah ben voilà, bon bah alors ça s'appelle I Spy en version originale et Les Espions en version française, hein. Cette série a duré 3 ans de 1965 à 1968, 85 épisodes diffusés par la chaîne NBC au départ, une série créée par Sheldon Leonard, Mort Fine et David Friedkin, aucun lien familial avec William Friedkin. Voilà, Les Espions. Et alors Allociné, c'est tellement bien quoi pour chercher des références que la musique de film, ils en ont rien à foutre quoi. La musique des génériques va t'accrocher quoi, mais je crois qu'elle est c'est marqué sur la pochette. Enfin bref, et Les Espions en fait,
Ah oui, à l'intérieur du disque, tu veux dire.
Robert Culp donc c'est l'un des deux espions hein qui fait tandem avec Bill Cosby. Donc c'est un des premiers grands rôles, on va dire, hein. Et c'est aussi à la télé américaine, on va dire, une des premières fois qu'un acteur afro-américain, un acteur black, tient un premier rôle dans une série télé, hein. Et un premier rôle sérieux, hein. C'est-à-dire c'est pas lui qui
c'est
est
pas
là.
L'humoriste non, de base, etc.
C'est pas le mec qui sort toujours la vanne quand il faut. C'est pas la nounou. On sait que la première femme, enfin le premier homme de couleur, femme de couleur, à avoir obtenu un Oscar, c'était la nounou, hein, la black dans les années 50, là, la petite grosse. Je me rappelle pas de son nom, hein. Mais là, on entre de plein pied dans les années 60 et là, Bill Cosby, se fait connaître quand même dans son rôle pour Les Espions. Alors,
attends, je vais essayer de retrouver le nom de. Parce que je pensais qu'il allait avoir le résumé et non, même pas.
Non, ça dépend des vignettes en fait. Ça dépend des vignettes. Alors
c'est Hagen qui a fait la musique.
Earl Hagen, voilà. J'avais noté quelque part dans ma tête, mais bon. Il joue le rôle d'espion, donc. Ils vont faire des missions dans le monde entier. C'est ça qui est assez intéressant. intéressant de cette série, hein, c'est que bon, bah, c'est une série américaine, mais qui va se dérouler plus ou moins dans le monde entier. Ils peuvent très bien partir pour une mission au Japon, puis ensuite se retrouver ensuite en Suisse, en Angleterre, en France, enfin un petit peu partout. Et bon, pour ça, ils ont bien entendu des couvertures, et leur couverture, qui d'ailleurs perdure tout au long pratiquement de la série, hein, eh bien, c'est le tennis. C'est-à-dire Robert Culp incarne un faux joueur de tennis, et Bill Cosby incarne son entraîneur de tennis, tout simplement. Et donc, dans cette série qui a quand même obtenu, grâce à Bill Cosby, 3 Emmy, hein, on y retrouve également quelques guests sympathiques tels que Vera Miles, Julie London, Gene Hackman, Anna Karina et bien d'autres.
Ah oui,
ah oui, oui, non, mais bon, c'est quand même une série qui a assez bien marché, hein, qui a été rediffusée il y a quelques années sur Série Club, me semble-t-il. Enfin bon, bah ça va, quoi. C'est il y a eu pas mal de diffusion et de rediffusion. Robert Culp, on l'a également vu au niveau télévision dans beaucoup, dans quelques épisodes de Columbo. Et d'ailleurs, je regardais ce matin sur la fiche de Robert Culp et tout, il y avait des petits messages qui étaient marqués en dessous, et plusieurs internautes marquaient que c'était Robert Culp qui les avait le plus marqués dans son interprétation de l'assassin dans les épisodes de Columbo, c'est-à-dire devant Patrick McGowan, tu vois. Alors bon,
oui,
c'est vrai que je me rappelle pas, j'ai essayé de chercher, il n'y a pas d'épisode avec Robert Culp cette semaine de Columbo, hein, j'ai essayé de rechercher, j'ai pas arrivé à retrouver, enfin bon, c'est parce que j'ai pas pris le temps non plus. En tout cas, bon, bah il a quand même joué dans 2-3 épisodes de Columbo, également dans The Outer Limits, c'est-à-dire au-delà du réel, et dans Perry Mason, Arabesque, et bien entendu, comme il est devenu super pote avec Bill Cosby. Bill Cosby, après Les Espions, bah lui va démarrer le Cosby Show, hein, et Robert Culp va se trouver très régulièrement invité dans le Cosby Show et dans toutes les productions de Bill Cosby. Alors, il faut aussi savoir qu'à la fin des années 70, Robert Culp loupe, on va dire, il loupe pas franchement le coup, parce qu'on ne sait pas ce que ça aurait pu donner, mais ça aurait pu être quand même assez énorme, parce qu'il faut savoir qu'à la fin de la première saison de Dallas, Larry Hagman, qui joue le rôle de JR, essaye de renégocier son cachet, parce qu'il sait très bien que c'est lui le héros de la série. Et donc, bras de fer entre la production et Larry Hagman et tout, et ils arrivent quand même à un arrangement. Il faut savoir que si Larry Hagman n'avait pas été reconduit dans Dallas, cette deuxième saison, c'est Robert Culp qui aurait pris la place de Larry Hagman dans le rôle de JR dans Dallas.
Je suis assez surpris, mais en fait, il est dans un clip de Eminem, dans E. C'est le... Il est narrateur.
Ouais,
alors... Bon, il n'y a pas que ça, hein.
Alors... Mais... Robert Culp, c'est également quelqu'un qui très tôt a, on va pas dire embrassé la cause noire, mais enfin bon, a été très proche des Blacks de par sa collaboration avec Bill Cosby.
Faisait partie du mouvement citoyen, comme on disait à l'époque.
Ouais, il est inscrit à la NCAAP, voilà, c'est ça. En 1969, il réalise, commente, écrit et produit un documentaire qui s'appelle Opération Break Basket sur l'économie noire américaine, avec les conseils de Jesse Jackson à l'époque, ce qui est assez intéressant. Il réalise également un film de cinéma, hein, E.K. et Bugs, en 72, avec Bill Cosby, avec Rosalind Cash, Michael Moriarty et James Woods. Sa carrière cinématographique, elle est pas en reste non plus, hein, parce que bon, bah, il démarre au début des années 60 dans un film qui est pas mal, en plus, que j'ai vu, qui est en fait l'histoire du jeune John Fitzgerald Kennedy. Ça s'appelle P.T. 109, et en fait, c'est l'histoire de Kennedy pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, quand il était sur ce patrouilleur 109. P.T., c'est patrouilleur 109. Un film de Leslie Martinson en 63 avec Cliff Robertson, entre autres. L'année suivante, il joue dans un Don Siegel, un polar assez dur quand même, qui s'appelle Le Prix d'un meurtre, ou The Hanged Man, c'est-à-dire l'homme pendu, en 64, avec Edmund O'Brien et Vera Miles. On le voit également dans Un col pour trois salopards de Burt Kennedy, que je vous avais déjà chroniqué plusieurs fois, avec Raquel Welch, Ernest Borgnine, Christopher Lee, Stephen Boyd. Et on le trouve également dans les années 80-90, hein, par exemple dans l'affaire Pélican. Tu te rappelles de ce film avec où il joue le rôle du président des États-Unis, qu'on doit descendre, et que c'est Denzel Washington, me semble-t-il, avec la nana, avec Julia Roberts. Il y a une histoire de complot et tout ça. Et en fait, ils doivent descendre le président des États-Unis, qui est interprété par Robert Culp. On le trouve également dans Agent 00 et dans un film dont j'ai jamais entendu parler qui s'appelle Most Wanted en 98, une histoire de chasse à l'homme avec John Voight entre autres, mais enfin assez anecdotique. Robert Culp qui avait l'air de, quand même d'être un, je sais pas s'il était chaud lapin, en tout cas il a fait quand même 5 mariages et de l'un de ces mariages est né un certain Steven qui est actuellement toujours dans Desperate Housewives où il joue le rôle du mari de Felicity Huffman.
D'accord, ok, oui.
Hein, le mec qui arrête de travailler à la fin de la première saison et qui s'occupe des gosses.
Je suis sûr que quand je rentrais tout à l'heure, ma chère et tendre copine va me dire bah tu t'avais pas rendu compte. Ah, gros naze. Et voilà. C'est parti pour du coup Robert Culp qui nous a quitté. Donc c'était mercredi dernier, c'est ça?
Ouais, ouais.
Ok. On va entamer les séries.
Les séries.
Les scénaristes se suivent et se ressemblent. Les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça. C'est la loi des séries.
Ah la 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 la.
Dans la seule radio où les animateurs ne peuvent pas savoir l'heure qu'il est.
Si, 12h47 minutes et 49 secondes.
Ouais, mais moi j'ai jamais de montre.
Désolé.
généralement la murale.
On travaille dans des conditions qui sont déplorables, des jingles qui sont faits avec le dessous des aisselles et pas d'éclairage ni de montre. Tu me montres.
Voilà. Ouais.
Parce que là, on est dans une pénombre.
Ouais, mais c'est plus facile de rester le cul vissé à son ordinateur toute la journée plutôt que de monter sur une échelle pour changer une ampoule. Hein. C'est clair. Hein.
Puis bon, combien il faut de salariés de radio éphémère pour changer une ampoule
hein. Il faut un savoir technologique en plus.
Hein. Ah oui, c'est
clair. Pas compte quoi. Hein. Ok.
Disclosure, j'ai été salarié de radio éphémère, donc la vanne, je la connais.
Série, au niveau inédit, une seule série cette semaine, c'est sur Canal+, jeudi prochain à 22h10, c'est Nurse Jackie, c'est encore un produit de Showtime, hein, cette chaîne américaine qui nous a déjà fait des bons trucs, hein, genre Dexter, tu vois, quoi, enfin bon, ça va, quoi.
Et qui est une filiale de Canal.
Ouais.
Très indirectement.
Ouais. Hein.
L'air Jean-Marie Messier, maître du monde.
Oui, c'est ça. Hein, c'est par les méandres de Vivendi et puis de Feu Universal. Enfin bon.
Voilà. Vis-à-vis, mais bien
alors,
sûr.
Showtime qui propose cette série qui est pratiquement une série, on va dire, faite sur mesure pour l'actrice principale qui est Jackie, la nurse, l'infirmière Jackie, interprétée par Edie Falco. Edie Falco qui est quand même Carmela Soprano, la femme.
Ah oui,
de Tony Soprano et qu'on voit également dans Oz dans les deux premières saisons hein, puisque c'est la
matrone.
C'est la copine de Terry Kinney hein, du patron de Oz quoi. Enfin on les voit même niquer un moment dans les couloirs et tout. Edie Falco donc qui s'est investi à fond dans ce rôle, qui a dès qu'elle a reçu le scénario a trouvé ça intéressant, s'est dit ouais, parce que bon en fait c'est complètement anticonformiste hein, c'est-à-dire c'est une nana qui trompe son mari, qui a un amant, qui se défonce pour tenir le coup au boulot, ça va quoi, c'est pas urgence, c'est pas Grey's Anatomy, oui il faut sauver les gens, oui l'honneur, oui le serment d'Hippocrate. C'est un peu plus trash, on va dire, hein, quand même. Le format est un format 26 minutes, hein, c'est-à-dire moitié d'un épisode normal. Et Showtime n'a prévu que 12 épisodes pour cette première saison. Mais dès le tournage du premier épisode, vu la performance des acteurs et des actrices, et surtout d'Eddie Falco, eh bien, Showtime décide de signer une deuxième saison. Directement, quoi. Pour te dire, hein, avant d'avoir les résultats d'audience, hein, c'est-à-dire les épisodes n'étaient même pas encore diffusés.
Oui, d'ailleurs, résultats d'audience, justement, les chaînes payantes comme Showtime ou HBO s'y intéressent, mais un peu moins, c'est plutôt
un
le retour
moins,
qualité.
Oui.
D'ailleurs,
oui.
Canal Plus aussi se moque en général de l'audience, qui les intéresse plus, c'est les résultats satisfaction clientèle.
Pour cette série également, bon, Edie Falco s'est donc investi à fond et elle a participé au casting. Pour Nurse Jackie, elle a bossé pas mal pour ce truc là et s'est vraiment investi. Donc ça va valoir le coup quand même parce que Edie Falco, non, mine de rien quoi, c'est quand même une excellente actrice, hein, y a pas de problème. Y a qu'à voir ce qu'elle fait dans Les Sopranos, hein, bon Puis là, on est convaincu. Un autre inédit, non, non, c'est Jackie, donc je rappelle, c'est jeudi prochain sur Canal, Canal Plus, à partir de 22h10. Un inédit encore demain sur France 3 à 20h35. Alors, France 3 le dimanche, 20h35, généralement, c'est quoi?
Ben, c'est Inspecteur Barnaby ou voilà. Inspecteur. Merde.
Oh, allez, allez.
Ah, ben, c'est Oxford, merde.
Non. C'en est un troisième, mais c'est une petite ville, hein, pas connue. Inspecteur Frost, retour. On le croyait disparu, mais non. Ben, il en est déjà à sa 42e aventure, enquête. Bon, on en a pas vu 42, c'est clair, hein, parce que bon, ils sont arrêtés au France 3, arrêtés de diffuser les Frost, alors qu'on était à l'année 2005, un truc comme ça, quoi. Là, on nous propose un épisode de 2008 qui s'appelle Ce que le public demande, réalisé par Paul Harris. Avec toujours bien entendu le magnifique David Jason qui a quand même pris hein, les années dans la gueule, c'est pas de problème hein, par rapport à son apparence dans le premier épisode. Et là, dans cet épisode, ok, il a vieilli, mais ça reste quand même l'inspecteur Frost. Et là, c'est vraiment quand même assez un régal. C'est demain soir sur France 3 à partir de 20h35. Sinon, au niveau inédit, c'est plutôt des saisons inédites. Il y a Sanctuary qui démarre sa deuxième saison sur Sci-Fi mardi à 20h45. Desperate Housewives, c'est la sixième saison qui démarre sur Canal+ jeudi à 20h45, c'est-à-dire juste avant Nurse Jackie. Et là, il ne s'agit pas d'une nouvelle saison, mais plutôt d'une série inédite, mais qu'on aurait du mal à voir parce qu'on n'était pas câblé sur Orange, machin, truc bidule, quoi. Donc bon, ok. Mais c'est une série quand même haut de gamme, True Blood, qui sera diffusée sur NT1 à partir de mercredi prochain, 22h15. True Blood. Merde. Créé par Alan Ball qui est le créateur de Six Feet Under, donc ça peut aller, avec Anna Paquin, Stephen Moyer, et qui revisite le mythe des vampires, mais d'une façon un petit peu différente, originale, à savoir que des Japonais ont inventé un sang synthétique qui permet justement aux vampires de pouvoir s'abreuver, mais sans justement tuer les êtres humains. Et donc, de ce fait, les vampires et les êtres humains peuvent se côtoyer, peuvent vivre ensemble sans problème. Bon, voilà le postulat de base hein, de True Blood. Mais rassurez-vous, ça change hein, quand même, parce que bon, bah, il y en a quand même qui se disent « Oh non, c'est pas la même chose et tout. Attends, c'est pas du vrai, c'est du synthétique, c'est pas du roots, du bio. »
Oui.
Donc, True Blood, c'est mercredi, à partir de mercredi prochain, 22h15 sur NT1. Alors, vite fait, le One Shot Note, ça c'est pas une série, mais c'est l'émission musicale de Manu Katché qui nous propose quand même, comme diraient les petits jeunes de Radio Éphémère, c'est du lourd, mon poteau. Sting, jeudi prochain, dans One Shot Note sur Arte à 23h, également les Blue Watchers et Balaké Sissoko. Donc, dans ce One Shot Note un petit peu spécial avec Sting à 23h. Et à 0h50, hein, toujours sur Arte, là, c'est j'en profite hein, parce que c'est sur le même truc, à 0h50. Après, c'est-à-dire One Shot Note à 23h, 23h50, il y a Trax. Et après, à 0h50, il y a Baby Cart, le film. C'est sur Arte, donc... ouais, bon, bah, c'est pas dommage qu'il le passe à cette heure-ci, parce que, bon, c'est Baby Cart, hein. Pour les gens qui connaissent pas, c'est un petit peu violent, on va dire. Hein. Un tout petit peu, hein.
C'est adapté d'une BD.
Voilà. Hein.
Ouais, c'est... Mais ce qui est très amusant, c'est l'intro du 5, surtout, pour sa grosse parodie d'un James Bond. Mais bon, Baby Cart, c'est vraiment le côté roots et sans nigolant. C'est clair, ça fait des geysers de sang.
Oui, ça c'est...
Y a pas de problème. Mais ça, ne pas louper, si vous ne connaissez pas et si vous aimez tout ce qui est Chambara et films de sabre ou...
Non, mais c'est bien. Hein.
C'est la référence absolue.
Vite fait, je vais parler d'une série. Non, c'est un pilote de peut-être une série, on ne sait pas. Hein. Moi, j'aimerais bien, franchement, quoi. C'est passé, ça a été diffusé sur TF1 jeudi, hein, dans la case horaire généralement réservée aux Julie Esco et autres RIS et autres sections de recherche que tu aimes bien. Et là, c'est une nouvelle série, enfin téléfilm hein, plutôt, hein, dans le même format que donc les Julie Esco, les 1h30, ça s'appelle La Loi selon Bartoli, avec dans le rôle principal, et donc dans le rôle de Bartoli, Stéphane Freys. On y retrouve également Lionel Astier, le père de Alexandre.
Alexandre, oui. Donc celui qui joue d'ailleurs dans les séries de ses deux enfants.
Oui, bah qui joue le père de Kaamelott, quoi.
Le beau-père.
Le beau-père, vraiment.
Attention.
Lionel Astier, j'ai pas retenu d'autres. Alors, l'idée est assez intéressante. Stéphane Freys, moi je trouve que c'est un bon acteur. Alors peut-être que dans cette série, il interprète un juge d'instruction et donc c'est une enquête policière, on va dire, hein, parce que c'est un juge d'instruction qui a des méthodes un petit peu spéciales, on va dire, pour arriver à ses fins, pour arriver à confondre les coupables. Alors il donne
tous les notables d'Outreau, hop, au trou.
Il paye de sa personne parce qu'il va sur le terrain, il va enquêter en plus quoi, il est jamais sapé comme un juge d'instruction, c'est-à-dire tu vas jamais porter la cravate, que dalle quoi. Hein, des fois un petit peu trash. Alors il a toujours cette barbe de 3 jours la loi selon Bartoli qui le fait ressembler un petit peu, et son attitude un petit peu, son jeu un petit peu, la façon qu'il a de jouer et son personnage le font ressembler un petit peu à Dr House, hein, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu cette similitude entre ce personnage qui est un petit peu pas très attachant, on va dire. Bon, Dr House est nettement plus méchant, misogyne que Bartoli, hein, mais il y a quand même des petits trucs qui sont pas nets, hein, chez ce Bartoli. Tout ce qu'on sait, c'est qu'au départ, il démarre dans une nouvelle ville, c'est dans le sud de la France, on croit savoir que c'est Aix-en-Provence, vu que toutes les bagnoles sont 13, mais que c'est une petite ville, donc on n'est pas à Marseille. Mais par contre, ça fonctionne assez bien. Faut dire que ça marche très bien du début jusqu'à la fin. Frey, c'est assez convaincant. Des fois un peu cabotin quand même, hein. Mais peut-être que si cette série est reconduite, eh bien ça se tassera un petit peu quoi au niveau du jeu de Frey. Mais sinon, c'était quand même assez agréable, hein. C'était La Loi selon Bartoli. Donc c'était diffusé jeudi dernier, avant-hier, donc sur TF1.
Et un petit break musical avec Timo Maas, Caravan featuring Finley Quay.
Read. Color. Blow. Up. Box. One. Blow.
Thank you.
Moumas avec Finlay Quay, et comme disait Dus, c'est vrai que ça fait vraiment un bail qu'on l'a pas entendu, ce garçon, Finlay Quay.
Eh ouais.
C'est bien dommage.
Ah bon, ouais. Il y en aura d'autres, hein, de toute façon.
13h03.
Ouais, on va parler de sport maintenant.
Oh non !
Ah si, mais tu verras que ça a un rapport avec tes rubriques, hein, tout à fait. On va parler de chess boxing. Alors,
Oui.
Hein, d'accord.
Ah, d'accord.
Ok, d'accord.
D'accord.
Alors,
faut rappeler d'abord d'où ça vient, hein, peut-être.
Ouais, moi je voulais justement pas déflorer le truc.
Bon, vas-y, allez.
Fin, alors, quoi. Alors, c'est. Ça a pris vie ben, en 2003 hein, par la grâce d'un artiste spécialisé dans le happening, un artiste néerlandais qui s'appelle Jeppe Robing,
ouais.
Et qui s'est dit tiens, on pourrait se taper un nouveau sport et tout, mais qui serait pas qui mélangerait un petit peu l'habileté intellectuelle et la force physique. Et donc il s'est dit on va prendre les deux sports qui les deux sports qui sont bon, les plus hauts au niveau, on va dire les plus hauts placés quoi, au niveau de ces deux distinctions, c'est-à-dire l'intellect, c'est le jeu d'échecs, et la boxe, bon, c'est le physique, hein, parce que bon, faut en avoir quand même, quoi, il y a pas de problème, quoi. Et il a commencé à organiser des championnats du monde, donc un premier championnat du monde en 2003. Alors les règles sont très simples, hein, un match compte 11 rounds et il se compose en alternance de 6 rounds d'échecs de 4 minutes et de 5 rounds de boxe de 3 minutes. Et le vainqueur, c'est tout simplement celui qui met échec et mat ou KO son adversaire. Très simple, tu vois, les règles de base.
Voilà. Après, à signaler qu'il y a une organisation qui s'appelle la World Chess Boxing Organization.
La WCBO, ouais.
Voilà, puisqu'ils en ont parlé en long, en large, en travers sur Euronews, ils ont fait une journée spéciale.
Ouais, et ils sont en négociation d'ailleurs avec Eurosport pour la diffusion du championnat du monde qui est prévu à la fin de l'année en Russie.
Alors, ça va être fun.
Ouais.
Alors,
il faut savoir que bon, les règlements sont les mêmes que dans les deux disciplines séparées, hein, c'est-à-dire pour les jeux d'échecs et
pour le jeu d'échecs, c'est le blitz. Hein.
Non, c'est pas le. Non, je crois pas.
Limité.
Ouais, oui, forcément quoi, puisque bon c'est des rounds, hein, donc forcément c'est en blitz quoi. Mais c'est pas le truc blitz avec un temps imposé, quoi. Mmh. D'accord? La pendule ne sert qu'à marquer de 0 à 4 minutes, c'est tout, quoi. Hein, mais il n'y a pas de nombre de coups déterminé, quoi. Comme dans le blitz. Ok? Alors, pour la boxe, par contre, c'est les mêmes règles avec également les différences de poids. Hein. Mais on a instauré également un autre règlement prenant en compte le fait que si un type était hyper fort en boxe mais nul en échec, il pouvait pas attendre de terminer sa séance d'échec pour niquer l'autre quoi, à la boxe. Donc il fallait que les gens aient un niveau d'échec suffisant, similaire, pour pouvoir concourir. Alors donc au niveau échec, il faut que les mecs soient classés au moins 1600 Elo, ce qui est l'équivalent d'un joueur moyen. Déjà confirmé
c'est,
quoi.
C'est, hein oui déjà.
Parce qu'on va dire les grands.
Je vais
maîtres.
Pas dire qu'on s'est joué une polonaise à ce stade-là en ouverture, mais.
Non mais bon, on connaît déjà quelques trucs, ouais. Hein, pas mal quoi. Puisque bon, pour vous situer le truc, les grands maîtres sont à 3000, 3002 je crois, hein, dans ces eaux-là quoi. Hein, donc.
Et en général, quand on débute, au bout de 2-3 parties, on est déjà à 500 Elo à peu près.
Voilà, ouais, globalement, hein, globalement quoi. Ok. Alors, ce Néerlandais, eh bien, a trouvé cette idée, il l'a pas trouvé n'importe où. C'est pas né de son cerveau de génial d'artiste d'happening. Il l'a lu dans une bande dessinée qui s'appelle Froid Équateur, dessinée écrite par Enki Bilal en 92.
Et où il y a un cas de tricherie dans la BD d'ailleurs.
Voilà, ouais, c'est ça quoi. Et d'ailleurs, il dit c'est son héros Nico Polfis hein, qui qui voulait faire une discipline qui mêlerait à la fois la force physique avec le noble arc et la boxe et la plus haute des forces mentales, savoir le jeu d'échecs. C'est une espèce de sport extrêmement prétentieux de quelqu'un qui voudrait dominer le monde. Il faut dire aussi que Bilal, c'est un peu le spécialiste de la création de sport Nawak,
puisqu'il a fait aussi le football artistique, si je me souviens
bien. Ouais, alors attends, parce que.
Ça se joue avec deux ballons, et en fait, il y a aussi bien le nombre de buts qui est marqué que les figures imposées, comme le double salto, enfin, des trucs comme ça.
Alors il y a le football joué sur des vaisseaux volants dans la tétralogie des monstres, dans hors-jeu et dans hors-jeu le foot change de nom parce que les dirigeants décident de supprimer le ballon et le but c'est de balancer les joueurs dans la cage. Et on le voit également, il y a également des parties de hockey sur glace avec des crosses avec des lames de rasoir au bout, hein, dans la foire aux immortels.
Oui.
Tu vois, donc bon, bah ok, c'est un. Et Bilal d'ailleurs, au départ, hein, c'est-à-dire que Jeppe Rubbing, le néerlandais, a écrit un mail à Bilal pour lui demander la permission de créer ce truc-là. Hein, c'est-à-dire que Bilal était présent lors du premier championnat du monde en 2003 hein, pour donner son aval hein, pour ce truc-là. Hein, donc c'est le chess boxing. Et bon, bah, vous voyez que la BD, bah, ça peut mener à tout, hein, même à la création de sports hautement improbables.
Ouais, je vous conseille quand même l'article Chess Boxing sur Wikipédia parce qu'elles sont impressionnantes. Il y a vraiment beaucoup de monde et voir les gueules des boxeurs devant le truc d'échecs est vraiment étonnant.
Ouais, ouais, mais alors regarde la photo là parce que ça c'est rigolo. Quoi.
Ah ouais, quand même. Avec et en boxeur et tout.
Avec les casques en plus. Mmh. Voilà.
Et après on va remettre ça.
Alors, revenons un petit peu à la télé à présent avec toujours concernant les séries, quelques petits guest starring durant cette semaine là, des épisodes qu'on a déjà vus, mais enfin bon, des fois c'est quand même agréable de les revoir. Déjà ce soir sur TF1 à 23h10 dans New York Unité Spéciale, ce sont de vieux épisodes, celui de la saison 4 qui s'appelle Trafic d'innocence a comme guest star Pam Grier. Il est pas mal cet épisode en plus. Demain sur TF1 à 20h45, CSI Vegas. Je vous l'avais dit lors du début de la première saison de la saison 9. Eh bien, William Peterson tire sa révérence. Eh bien, c'est demain soir dans ce double épisode, le 9 et le 10 de la saison 9. Et passe la main à Larry Fishburne qui va prendre le contrôle. Donc, c'est demain soir.
Il n'y est pas encore.
Hein?
Il n'y est pas encore.
Non, il n'y est pas encore, mais bon. Demain soir également dans Comédie, hein, c'est des rediffs de Mon Oncle Charlie, mais dans l'épisode Obsession, Courage, Fuyons, eh bien, Charlie Sheen, Mon Oncle Charlie, donc, eh bien, joue face à son ex, ils se sont quittés en très mauvais termes, Denise Richards, mais qui fait quand même une apparition excellente, d'ailleurs, dans Mon Oncle Charlie. Et si vous regardez cet épisode, regardez-le en version originale, car il y a des petits sous-entendus glisser dans les dialogues qui sont vraiment savoureux et qui concernent justement l'ancienne relation entre Charlie Sheen et Denise Richards.
Le procès c'était avant ou après ?
Comment ?
Le procès, parce qu'il y a eu un procès pour violence après qui a été fait. Il était à retourner la voir.
C'était après.
Bourré. C'était après.
C'était d'accord. Après. Et d'ailleurs là, avec sa nouvelle femme, c'est pareil. Hein.
C'est, ah oui, je sais.
Rebelote, hein, menace de mort, tout le bordel. Enfin bon, il change pas ce garçon. C'est bien, c'est bien. Lundi, sur TF1 à 22h20 dans Esprit criminel, Keith Carradine dans l'épisode Le retour de Frank. C'est également un épisode de la saison 2, donc encore avec Mandy Patinkin. Lundi sur TF6 à 22h10 dans un épisode de la 8e saison de Smallville, l'épisode Ennemi public numéro 1, la présence de Tori Spelling, rappelez-vous Beverly Hills, et mercredi sur TF1 dans New York section criminelle, également un épisode de la saison 6 donc déjà vu qui s'appelle Les belles sœurs, et bien la présence de Rip Torn. Allez, du film à présent à la télé avec peut-être la bonne page en premier, ce sera sympa quoi. ce soir sur RTL9.
Non mais on vous explique, du sport est un petit peu la fée dans le désordre, un petit peu rapidos, donc c'est pour ça que c'est un peu dans le bazar. Et moi aussi d'ailleurs j'ai oublié de foutre le bon fond sonore, ça arrive.
On est en direct, bordel de Dieu, dans une radio qui est franchement...
Alternative.
Ouais, alternative. Un western pas alternatif du tout ce soir sur RTL9 à 20h35. C'est Le Major Dundee de Sam Peckinpah en 65. Un film qu'il a à un moment renié parce que bon, bah, le producteur avait fait des coupes larges dans le film.
C'est après qu'on a instauré la tradition de renommer le réalisateur quand il renie le film.
Voilà. Ouais, non, mais parce que bon, à l'époque, Peckinpah n'était pas le réalisateur qu'il est devenu après The Wild Bunch. Avec quand même Charlton Heston, Richard Harris, James Coburn. Ce soir sur Sci-Fi à 20h45, Monkey Bone. Un film sympathique dans lequel on découvrait un jeune acteur qui allait devenir super connu dans le film d'après, Monkey Bone de Henry Selick, qui est d'ailleurs le réalisateur de James et la pêche géante, et qui là, dans Monkey Bone, nous propose les aventures d'un dessinateur de BD qui va se retrouver dans un monde virtuel c'est assez trash, quoi, avec John Turturro, Bridget Fonda et un petit jeune pas connu à l'époque, Brendan Fraser.
Toute la moitié en animation, un peu sur la lancée justement de Qui veut la peau de Roger Rabbit, et c'est très 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 bon.
Sur AB1, toujours ce soir à 20h40, Ultime Combat de Brent Huff, avec Robert Davi, Roddy Piper et Ralph Möller. Ça, c'est du lourd, du couillu. C'est l'histoire d'une bande de mercenaires qui font les vigilantes pour sauver un village de l'assaut de gens qui sont de méchants qui sont venus pour essayer de mettre le village sous leur coupe réglée. C'est sympathique, ça se laisse regarder et tout. C'est pas mal, quoi, sans plus. CinéFX vous propose à 21h ce soir Dark Waters de Philippe Girot, le mec qui nous avait fait tous les films avec les requins, là. Avec Lorenzo Lamas, Bruce Gray et Simon McKinnon. Demain sur RTL9, La Nuit des Chauves-Souris à 23h30 de Louis Morneau. Il est excellent celui-là, avec Louis Diamond Phillips, Dina Meyer, Léon et Bob Gunton. Demain sur France 4 à 20h35, Le Cinquième Élément. Et à 22h45, Girl Fight, le premier Karine Kusama, avec Michel Rodriguez. Et sur Paris Première, si vous l'avez jamais vu, ce téléfilm est absolument magnifique. C'est certainement la meilleure version qui a été faite sur l'histoire de Jack l'Éventreur. C'est la véritable histoire de Jack l'Éventreur. Le téléfilm en deux parties, c'est-à-dire 3h30, ça date de 1988, c'est produit par la télé anglaise La BBC, réalisé par David Wicks, avec Michael Caine, Jane Seymour et Armand Assante, plus pas mal d'autres.
Je crois que c'est la première fois où il porte sur écran la thèse comme quoi c'est le docteur de la reine.
C'est ça.
D'ailleurs, c'est là-dessus que Alan Moore s'était inspiré pour faire sa version From Hell.
From Hell se rapproche beaucoup. La version From Hell de Jack l'Éventreur est très proche de cette version, et pour cause.
Et voilà.
Après ce téléfilm donc en deux parties qui dure jusqu'à 5:30, eh bien il y a un documentaire de Olivier Dan de 2006 qui s'appelle Jack l'Éventreur, portrait d'un tueur. On essaie de retrouver toujours les traces et tout, de savoir qui c'est et tout. On se rappelle que la nana là qui a écrit tous les bouquins de Case Carpeta, l'américaine là,
mais on regarde pas comme ça.
Qui a écrit beaucoup de livres avec Case Carpeta, ça a fait un film également, une nana qui travaille dans une morgue. Et elle a laissé tomber ses bouquins pour se consacrer, avec le pognon qu'elle a ramassé, elle peut se le permettre, pour enquêter justement sur Jack l'Éventreur. Et donc elle a passé un an et demi à ne faire que ça. Elle a écrit un bouquin, justement, sa version de Jack l'Éventreur. On pense ce qu'on veut de toute façon. Mais enfin bon, elle s'est également servie des nouvelles méthodes d'investigation qui n'étaient pas
disponibles à
l'époque. Et voilà. Donc c'est demain soir, donc soirée Jack l'Éventreur sur Paris Première. Demain soir sur Ciné Cinéma Frisson, soirée alpinisme avec à 20h40 Cliffhanger de Rennie Harlin, et à 22h35 La Mort Suspendue de Kevin MacDonald avec j'arrive plus à lire. C'est bien. Simon Yates, entre autres. Sur Polar demain soir, Un faux mouvement de Carl Franklin. Bon Polar avec Cindy Williams, Bill Paxton, Billy Bob Thornton et Michael Beach. Carl Franklin qui devait faire, juste l'année après, Le Vampire de Brooklyn. Tu sais, le film avec Eddie Murphy.
Quelle bouse.
Ah ouais, mais bon. Mais celui-là est pas mal, hein, franchement, quoi. Lundi sur Arte, Les Diaboliques de Clouseau. Alors là, chef-d'œuvre.
Grand.
Énorme. Avec Simone Signoret, Vera Clouseau, Paul Meurice. Excellent. Et Charles Vanel. Sur TMC. C'est demain, on reconduit ce qu'on avait fait la semaine passée, mais là avec les deux. C'est-à-dire que c'est spécial Eddie Murphy avec à 20h40, 48 heures de plus de Walter Hill en 90, avec Nick Nolte, Brian James, Andrew Dimoff. Et à 22h25, le film de Beverly Hills de Tony Scott avec Judge Reinhold et Jürgen Prochnow. Sur W9, lundi, soirée spéciale Steven Seagal, tu l'enverras après. Avec tout d'abord un film pour illustrer, c'est con parce que bon, c'est le film où il crève, quoi. C'est l'ultime décision de Stuart Baird.
Ah, mais c'est le meilleur, son meilleur rôle.
Ouais, ouais. Avec Kurt Russell, Alain Berry.
Avec moi, il n'y a pas de souci. Non, mais je vais vous les ramener. Non, mais il n'y aura vraiment pas de problème. Et merde.
Il y a également David Suchet, c'est le terroriste, hein. Il y a John Leguizamo et Billy Wong, hein. Billy Wong qui est l'asiatique qu'on voit dans, qui est le curé dans Oz et qui est également le psychologue dans, New York Unité Spéciale. Pourquoi soirée spéciale Steven Seagal? C'est pas parce qu'on passe deux films de Steven Seagal, c'est parce que Steven Seagal a également tourné une télé-réalité. Steven Seagal au service de la loi.
Et, oh, en fait,
Steven Seagal habite en Louisiane et le patelin dans lequel il habite, eh bien, lui a demandé s'il pouvait venir donner des conseils, des petits cours d'autodéfense, des petits cours d'arts martiaux au service de police de son petit patelin. Il a dit ok, pas de problème et tout ça, quoi. Et de fil en aiguille, ils sont devenus potes avec le shérif de ce patelin. Et Steven Seagal, eh bien, s'est engagé à faire du service de temps en temps, quoi, pour le shérif de ce petit patelin qui s'appelle d'ailleurs Jefferson Parish en Louisiane, la paroisse de Jefferson, hein, en français. Et donc, eh bien, Steven Seagal, de temps en temps, eh bien, est flic avec un uniforme et tout, et suit les patrouilles dans la nuit. Et ça donne donc Steven Seagal au service de la loi, une télé-réalité. Donc, on va pouvoir voir deux épisodes. Lundi dans W9 après Ultime Décision à partir de 22h50.
Ça peut être sympa, personnellement.
Ça peut être fun, il n'y a pas de problème. Fun. Donc c'est lundi, hein, Steven Seagal au service de la loi à 22h50, une télé-réalité.
Et Steven Seagal, un Thunderbolts, Talk to My House.
Talk to My House.
Oui, parce qu'il fait du blues et il est bon. Steven Seagal. Et comme quoi, hein,
il sait pas que casser voilà. Des bras, tu vois.
Il sait aussi casser les guitares avec les Thunderbolts. Et c'est Talk to My Ass. Et c'est extrait d'un de ses albums qu'on passe souvent.
Ouais. Enfin, ça, c'est l'album Mojo Blues. Il y en a un autre qui est plus reggae, on va dire, où il y a des morceaux plus reggae, quoi. Parce que bon, il a également enregistré en
et
Jamaïque.
Un conseil, n'essayez pas de regarder le clip. Moi, si vous le regardez, c'est de ne pas rire.
Bon, on revient au film à la télé lundi sur TF6 à 23h05. Alors celui-là, c'est d'avoir son pesant de cacahuètes. Locust, la 8e plaie de Ian Gilmour en 2005 avec Dan Cortez, Julie Benz, David Kiss, mais surtout Jeff Fahey. L'histoire de sauterelles qui vont devenir des mangeuses d'êtres humains. Je te laisse imaginer. Alors, du Coq à l'âne sur TMC à 20h40, Panique à Needle Park, un excellent film qui allait révéler un jeune acteur pas connu mais qui allait devenir monstrueux une décennie plus tard. Al Pacino, Kitty Wynn, un film de Jerry Schatzberg en 71. Jerry Schatzberg qui allait rafler un Oscar à Cannes 2 ans plus tard avec son Épouvantail, hein, qui est d'ailleurs programmé cette semaine, j'en parlerai à la fin. L'histoire d'un couple de junkies, enfin bon, pas de junkies, mais au départ, ce sont des arnaqueurs, et sa nana enceinte avorte, ils se trouvent mêlés à un trafic de drogue, et ils descendent dans l'enfer de la drogue, mince. Raconté comme ça, bon, ok, c'est rigolo, mais le film n'est vraiment pas rigolo, c'est vraiment trash, et c'est vraiment un très très bon film. C'est sur TCM, donc lundi à 20h40, Panique à Needle Park. Sur Polar, toujours lundi à 21h, Du plomb pour l'inspecteur. Le titre original, c'est Pushover, un film de Richard Quine en 54 avec Fred McMurray, Kim Novak et Dorothy Malone. Richard Quine qui a pas fait beaucoup de polars, il en a fait 2, je crois. C'était plutôt un spécialiste des comédies, hein, pour la Columbia. Il a commencé sa carrière en 48 avec Leather Glove, puis il nous fait des Sunnyside on the Street en 51, Opération Madball en 57 et It Happened to Jane qui a été traduite par Train, Amour et Crustacé en 59. Alors ces deux films, c'est des comédies, mais des comédies quand même sympathiques et assez bien troussées, parce que le scénariste était un certain Blake Edwards. On a également Sex and the Single Girl en 64, Une Vierge sur Canapé ou How to Murder Your Wife, et son dernier film, eh bien c'est une relecture, on va dire, du Prisonnier de Zenda. Hein, qui en est à sa, c'est peut-être la 5e version, on va dire. La meilleure, c'est quand même celle des années 50 avec Stewart Granger. Mais celle-là est humoristique parce que, eh bien, on y retrouve un certain Peter Sellers dedans, entre autres. Mais bon, ça se laisse quand même regarder.
Si tu as dit Black Edward, c'est un peu avant, ça me semble un petit peu normal, hein. Ils ont toujours été proches l'un ou l'autre.
Non, mais là, c'est un truc de Richard Quine, hein, attention.
Oui, tout à fait.
Parce que Black Edwards, par la suite, il allait devenir, bien entendu, réalisateur avec les Panthères Roses, avec tous ces trucs-là. Mardi, sur 13e rue, Le Mexicain. Je vous en ai parlé déjà de ce petit téléfilm sympathique qui ne paye pas de mine comme ça, avec de Scott Thomas, avec Fabian Carillo dans le rôle principal, hein, l'histoire d'un Mexicain qui connaît les arts martiaux à fond les manettes et qui retourne dans son village également gangréné par la violence et par les gangs. Et il va devoir affronter Gary Buzet, Lorenzo Lamas, teint en blond, et Roberto Lazzardo. Ça, c'est que des méchants, hein, tu vois. Alors là, mais il arrive quand même à les dégommer, t'en fais pas. Sur Ciné Cinéma Classique, mardi, du western avec à 20h40 Carson City, où la version française, c'est Les Conquérants de Carson City, d'André de Tote en 52 avec Randolph Scott, Lucille Norman, Raymond Massey, l'histoire de la construction du chemin de fer, hein, le chemin de fer doit passer absolument et tout, mais non, on veut pas, fait chier et tout. À 22h05, Le Convoi Maudit de Roy Roland dans 50 avec Joel McCrea, Barry Sullivan, Ramon Navarro dans c'est un des derniers rôles, et James Whitmore. Roy Roland, c'est quand même le mec qui a fait la version originale qui avait été refaite il y a quelques années, Les 5000 doigts du Docteur T. Je sais pas si tu te rappelles, je crois que c'est Robert Altman qui avait fait ce film avec Richard Gere. Et il nous fait également The Girl Hunters, Roy Roland en 63, où Mickey Spillane interprète lui-même le rôle de Mike Hammer. Il y a également comédie musicale Meet Me Las Vegas, excellente, avec Sid Charis en 56, hein, tout ça c'est du Roy Roland entre autres. Et on a également mardi sur la chaîne Polar à 21h, M15 demande protection de Sidney Lumet en 63. 5 d'après un roman de John le Carré, avec James Mason, Simone Signoret et Maximilian Schell. Sur CinéFX mardi, le Père Noël à la conquête des Martiens, avec Pia Zadora et le film de Nicolas Webster. Ça part du principe que les enfants martiens, ils ont les boules parce que quand ils regardent ce qui se passe sur Terre, ils voient que le Père Noël, il débarque chaque année, alors ils décident de kidnapper le Père Noël. Mercredi sur TPS Star à 20h40, Crime à Oxford de Alex de la Iglesia avec Elijah Wood, de John Hurt, Dominique Pinon entre autres. Sur Energy 12, c'est mercredi, c'est Energy 12, donc c'est les deux bouses pour le prix d'une de la semaine à 20h35, Les ailes d'acier de Fred Olen Ray avec Daniel Baldwin, Joe Lala et Hannes Yannicke. Et à 22h20, on vous en met un autre, pour la bonne bouche, Blowback de Mark Lester avec Mario Von Peebles et James Remar. Ah ouais, attention là. Sur TF6, mercredi toujours à 20h40, et là c'est un téléfilm en deux parties, donc jusqu'à 23h50. Là c'est plutôt dans l'histoire de virus, pandémique, virus fatal, d'Armand Mastroianni, en 2007 avec Tiffany, qui s'appelle plus Amber, Tiffany Thyssen, tout simplement, Bruce Boxleitner, Bob Gunton, l'histoire d'un virus de la grippe aviaire qui débarque sur une côte californienne. Ça te dit quelque chose, cette histoire? Hein? Bon, alors tu vas préférer peut-être sur AB1 le même soir, mercredi prochain, 20h40, Les Détonateurs. Et le titre veut absolument rien dire parce que c'est également une histoire de recherche de virus. Mais là, les Ricains partent au Gabon avec Judith Light. Hein, c'est étonnant quand même de retrouver Judith Light dans un truc comme ça, quoi. Hein, c'est
elle a besoin de payer son loyer.
Ouais. Bon, enfin bon, c'est quand même elle qui. Qu'on retrouve dans Law and Order, hein, qui joue le rôle de la
procureuse,
la patronne de McCoy et tout ça, quoi. Il y a également Pamela Reed et Bill Nunn, donc, dans ce détonateur. Jeudi, sur M6, Nikita. Nikita, okay. Sur RTL9, à 20h35, une comédie sympatoche, vraiment, de Harold Swart, qui s'appelle Divine mais dangereuse, avec Liv Tyler, je sais pas si tu te rappelles de ce film, où elle nique la tête à tout le monde, Matt Dillon, John Goodman, Paul Reiser, Michael Douglas, c'est sympa, c'est vachement bien foutu et tout, ça se laisse regarder, ça paye pas de mine comme ça, quoi, et puis bon... Hein, c'est pas prétentieux du tout, quoi. C'est ça qui est intéressant, quoi. C'est donc sur RTL9 jeudi prochain à 20h35. Sur Paris Première, c'est soirée guerre avec à 20h35 le controversé L'Enfer du Devoir de William Friedkin avec Tommy Jones, Guy Pearce, Samuel L. Jackson, Ben Kingsley, Bruce Greenwood, et à 22h45 un des grands classiques, mais un des films d'Oliver Stone, Platoon, en 86. À W9 vous propose jeudi prochain à 20h35 Au service de la loi de Jean de Segonzac. C'est un téléfilm avec Craig T. Nelson, Richard Crenna, Joanna Cassidy et John Corbett. Mais ça se laisse quand même regarder. Hein,
Jean de Segonzac, c'est celui qui est derrière la franchise.
Law and Order. Oui. C'est un des spécialistes, hein, de, et qui est d'ailleurs toujours, qui tourne toujours, hein, d'ailleurs dans le New York section criminelle inédit de mercredi. Il y avait un des épisodes réalisé par Jean de Segonzac. Hein. C'est un des bons faiseurs de la télé, on va dire. On va appeler ça comme ça. Sur NT1 jeudi prochain à 22h35, nous avons également King of New York, Ferrara avec Larry Fishburne et Wesley Snipes, ainsi que Christopher Walken et David Caruso. Sur Direct 8 à 20h40, Judge Dredd de Danny Cannon avec Sly, Armand Sante, et à 22h30, Terrain Miné de Steven Seagal, et avec Steven Seagal, Michael Caine, Joan Chen, Robert Lee Hermès. Ça a été tourné en 93, sorti en 93. 13e rue vous propose à 20h40 Mauvais Piège de Luis Mondoki en 2002 avec Charlize Theron, Kevin Bacon, Courtney Love et Stuart Townsend. Et on se demande ce qu'ils sont venus foutre dans cette galère, mais bon, comme tu dis, faut payer ses impôts. Et sur Sci-Fi, jeudi prochain, un film que je vous avais déjà chroniqué, magnifique, à 20h45, Mega Shark versus Giant Octopus, avec Lorenzo Lamas, Deborah Gibson et Vic Chao, un film de Jack Perez très récent puisqu'il date de l'année dernière. Et là, je sais plus où j'en suis, là.
Oh, il est 13h35, si tu veux savoir.
Non, 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 mais bon, c'est là, au niveau des feuilles, tu vois, quoi. C'est ça, quoi. Ah, voilà, c'est bon. Jeudi toujours, sur TF6 à 20h40. Black Dawn de Alexander Grusinski en 2005 avec Steven Seagal et Tamara Davis. Mais celui-là, vous pouvez passer outre, il n'y a pas de problème, je vous en voudrais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et à 22h40, Frisk Maximum de Ringolam avec JCVD, bien sûr. Le film français de JCVD, hein, puisque bon bah ça se passe à Nice et tout, il y a course poursuite en R5 et tout, enfin bon c'est rigolo quoi, ça se laisse regarder et tout quoi.
Là, tu oublies le premier film de JCVD.
Ouais,
là, oui mais bon celui-là pour
ouais,
le
ouais, ouais, non, bon. Sur AB1 jeudi prochain, Wing Commander de Chris Roberts en 99 avec Freddie Prinze Jr, Saffron Burroughs et Matthew Lillard. Alors les voir dans ce genre de film et tout quoi, genre
surtout que le jeu Wing Commander lui-même datait de 94.
Oui non mais là c'est de retrouver les deux acteurs principaux de comment s'appelle ce dessin animé là avec le chien là
avec, c'est Rookie.
Avec non avec la où il jase des monstres et tout quoi mais si Ah zut, il y a eu deux films d'ailleurs qui ont été tournés quoi, avec Sarah Michelle Gellar puisque c'est la copine de Freddie Prinze. Ouais bon, laisse tomber.
Ah oui, la complète.
Scooby-Doo, voilà, j'y suis arrivé. Scooby-Doo, ben oui, Matthew Lillard et Freddie Prinze quoi, hein. Sur TCM jeudi prochain à 20h40, un frisson dans la nuit de Clint Eastwood, sa première réalisation, mais excellent, hein, en noir et blanc, mais top moumoute, on va dire. Sur Polar, à 21h, Cash on Demand de Quentin Lawrence avec Peter Cushing, André Morel et Robert Vernon en 61. Et sur CinéFX, toujours jeudi prochain, à 21h, Le Train des Épouvantes de Freddy Francis en 65. C'est un pur hammer celui-là avec la totale, Peter Cushing, Christopher Lee, Donald Sutherland. Vendredi, j'en termine avec vendredi prochain sur RTL9 à 22h10, Python 2 de Lee McConnell en 2001 avec Bill Zabka et Dana Ashbrook. Sur NT1 à 20h35, Mort, Impair et Passe de Louis Morneau en 2004 avec Sean Carrigan et Billy Zane. Ouais. Et sur Cinémastar, eh bien je vous en avais parlé un petit peu avant, L'Épouvantail de Jerry Schatzberg en 73 avec Gene Hackman et Al Pacino. Excellent film, très grand film, vraiment excellent. L'histoire de deux paumés qui se baladent comme ça, ils se rencontrent alors qu'ils sont en train de faire du stop et tout, l'un d'un côté de la route, l'autre de l'autre côté de la route et tout. Il va leur arriver des histoires d'ailleurs, mais c'est vraiment excellent. Là Gene Hackman se révèle comme un excellent et très grand acteur, et Al Pacino bah il est obligé de suivre. Il le fait bien, hein, y a pas de problème.
Une fois qu'il cabotine pas trop.
non, mais vraiment il le fait bien. Non, mais à l'époque il cabotinait pas du tout. Hein. Là c'était vraiment bon, à fond dedans. Et je termine avec, ouais, je termine avec le film de CinéFX qui n'est pas, non, eh ben non, ce n'est pas un péplum. C'est un film d'anticipation, on va dire, hein, fantastique, Le Survivant d'un Monde Parallèle, mais il est vraiment bien. De David Hemmings.
Avec un nom pareil, on avait de quoi s'inquiéter.
Et tu connais David Hemmings quand même. Tout le monde connaît David Hemmings. Il a tourné dans un film qui a été Palme d'Or du Festival de Cannes en 67. Ce film a eu un remake tourné par Brian De Palma au début des années 80.
Le Fantôme de l'Opéra ?
Mais non, en 67.
En 67.
Blow Up de Antonioni, le photographe.
Oh oui.
Le blond photographe David Hemmings, donc. Et dans ce Survivant d'un Monde Parallèle, on a la présence de Robert Powell, Jenny Agutter et Joseph Cotten. Voilà donc pour les films à la télé cette semaine.
Bon. Eh ben, il n'y a pas Thomas, donc le résumé, c'est moi qui vais, pour ceux qui viennent d'arriver comme ça par hasard à l'émission, c'est moi qui vais m'y coller, puisque l'on a eu un geek dépressif, un restaurant italien de la mort, on a eu deux losers absolus, une tempête hollywoodienne, une excuse en béton pour ne pas faire émission, pour ne pas faire la chronique cinéma, mais pour envahir l'émission de mardi prochain. On a eu aussi le résumé du TGS ou un ami qui aura lieu dans 15 jours et où le supplément week-end sera. Et de la bio, encore quelqu'un qui est tombé, des échecs, de la boxe et du Steven. Mais si vous avez manqué tout ça, heureusement, grâce au podcast et à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi nous retrouver nos chroniques écrites. Fouillez dans nos archives, posez des questions, retrouvez donc par exemple le lien vers le TGS ou un ami, le festival de Bulle d'Ombre 2010, le trailer exclusif d'Avatar 2, la chronique de DMZ, un jeu sanglant, ou encore celui de Africa Dream. C'est pour cela, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site web de l'émission suppléments-weekend.fr, suppléments-weekend.fr sans accent ni tiré. Vous écoutez Radio FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, bon bah on va squatter le mardi. Hein. Mais chut, c'est une blague. On se retrouve donc samedi prochain, même heure, même fréquence, après avoir foutu le bordel. Après ça, ils vont me détester mais à mort. J'adore. Et de suite, c'est du sport. Ciao, bye bye.